faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Le tennisman Rafael Nadal entre lui aussi un peu plus encore dans la légende. 13e titre à Roland-Garros pour l'Espagnol qui a assez facilement disposé hier du numéro 1 mondial Novak Djokovic battu en 3-7. Cette victoire de Nadal est sa 20e en Grand Chelem, ce qui lui permet d'égaler le Suisse Federer.
Ça, c'était à l'automne dernier. Et à partir de demain, sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, Rafael Nadal tentera d'enlever une 14e édition à Roland-Garros. Une prouesse inouïe, inédite et sans doute inégalable, orchestrée depuis 2005 par ce gamin de Majorque. Mais Nadal n'est pas une comète sortie de nulle part. Rafael Nadal est avant tout l'héritier d'un tennis espagnol lancé à l'aube des années 60. Une histoire passionnante qui fait écho à la transition démocratique dans la péninsule ibérique. Alors, au micro d'Inter ce soir, deux invités pour sonder l'histoire et l'essence du tennis espagnol. Tout d'abord, il fut conservateur du musée du tennis et auteur de documentaires consacrés à l'histoire du sport. Jean-Christophe Piffaut, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous. À vos côtés, un ancien joueur de tennis, devenu le coach, l'entraîneur de son frère et auteur d'un très bon dictionnaire amoureux du tennis, Antoine Bento, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Et bienvenue à vous aussi, bien sûr. Et juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minanzio. Ce soir, on cause encore de tennis avec les sérénades de Serena Williams. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. À l'affiche ce soir, le tennis espagnol, miroir de l'histoire ibérique.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors ce soir, on débute avec une archive de 1967. Finale de la Coupe Davis à Barcelone. Espagne, URSS. C'est le troisième match, c'est-à-dire le double messieurs. Et vous allez vite entendre qu'à l'époque, le tennis espagnol se jouait aussi dans la sphère politique. Car ce jour-là, il s'est passé quelque chose de très important avec cette délégation communiste dans l'Espagne franquiste. Au micro, le merveilleux Claude Darget.
Sous les caméras de la télévision espagnole, là où se joue ou va se jouer la finale zone A européenne de Coupe Davis entre l'Espagne et la Russie. C'est la deuxième journée en ce samedi. Les Ibériques mènent, vous le savez sans doute, par 2-0. Il ne plus du délire à ce moment-là à Barcelone. Pour l'Espagne, Manuel Santana, joueur numéro 1 espagnol et pratiquement joueur numéro 1 mondial, associé à José Luis Arilla. Contre les Russes, Alexander Metrevelli associé à Sergei Likache. Mais je voudrais, puisque j'en ai encore un petit peu le temps, vous dire que nous venons d'assister tout à l'heure à un moment assez extraordinaire. Sur ce très grand stade flottent en effet trois grands drapeaux. Le drapeau espagnol, sang et or, à bande. Le drapeau catalan, blanc, sang et or, à bande. Le drapeau russe, sang et or, à fossé. Et c'est la première fois depuis la guerre civile qu'il est officiellement arboré dans la capitale catalane et qu'il s'est mélangé il y a moins de 10 minutes au drapeau espagnol. Les couleurs sont les mêmes, mais la conception politique n'est évidemment pas la même. Le temps ici à Barcelone, absolument magnifique, pas trop chaud, beau mais pas trop chaud. C'est certainement Santana, ça vient d'être annoncé d'ailleurs, qui va maintenant servir pour les Espagnols. Santana Manuel Manolo, je crois vraiment ne pas avoir à vous le présenter. Il est considéré depuis 3 ans au moins comme le meilleur joueur amateur du monde. Il a 29 ans, il est marié, il a 2 enfants, il est né à Madrid, le petit ramasseur au grand cœur. Il est typique, j'espère que vous le verrez aujourd'hui, typique du tempérament combattant espagnol.
Manuel Santana, le saint patron du tennis espagnol, surnommé par Claude Darget le petit ramasseur au grand cœur. Voici l'histoire du dimanche soir. Au mois de juin 1972, après 10 ans de vaches maigres, un tennisman français s'est hissé en finale de Roland-Garros. Il s'appelle Patrick Proisy. Il affronte ce jour-là un joueur espagnol, Andrés Gimeno. Et avec Manuel Santana, Andrés Gimeno incarne un tennis espagnol qui a surgi sur la scène internationale au tout début des 60s. Santana, lui, a déjà triomphé 2 fois sur la terre battue parisienne en 1961 et en 1964. Ce sont les toutes premières victoires espagnoles à Roland-Garros. Mais revenons en 1972. Après une heure de jeu, la finale a été interrompue. Alors retournons voir ce qu'il s'y passe.
Et voilà, l'averse est terminée. Le match va pouvoir reprendre. On essuie les raies. Les deux finalistes entrent en piste. Patrick Troisy, à 24 ans, joue la chance de sa vie dans cette finale, qu'il est le premier Français à disputer depuis Darmon. Mais Andrés Gimeno prend la direction des opérations en montant sans cesse au filet. Le grand Catalan a acquis une maîtrise absolue au fil des rencontres qui l'ont opposé au professionnel des tournées Kramer, où il était le seul joueur ibérique. Troisy se défend bien, mais il ne peut empêcher Gimeno d'enlever les 3-7 suivants et de remporter le titre. Gimeno est le deuxième Espagnol à inscrire son nom au palmarès de Roland-Garros après Santana.
Santana, Gimeno ou Gimeno, Santana, ce duo du tennis espagnol des années 60, qui sont aux origines d'ailleurs du tennis espagnol international. Jean-Christophe Piffaut, on va commencer par raconter qui sont ces deux-là. Commençons par Andrés Gimeno. Qui était-il, ce grand Gimeno?
Alors ce grand Gimeno, c'est la préfiguration des champions d'aujourd'hui. Son père est professeur de tennis. Ça veut dire qu'il ne peut plus faire de compétition, car à l'époque, être professionnel, même en étant prof, ça excluait de toute compétition amateur. Et il va être fabriqué, entre guillemets, entraîné, préparé par son père. Et être professeur de tennis en Espagne, sous l'Espagne franquiste, c'est être dans des clubs bourgeois, entre soi.
Un tennis de courtoisie, un tennis d'affaires.
Exactement. C'est un tennis d'entre soi relationnel. C'est là qu'on négocie des affaires immobilières, des affaires bancaires. Et le prof, c'est pas le fronnier, mais c'est celui qui va occuper les gens. Leur donner un niveau minimum de pratique pour qu'ils puissent s'amuser. Mais il est là, mais il n'est pas tout à fait à sa place. Ou il est à sa place, mais on lui rappelle bien que sa place, elle est là. Et Gimeno, il va pas avoir le choix. C'est que quand il devient un bon joueur, son père n'a pas une fortune qui va lui permettre de faire le circuit amateur. Donc il va aller vers le circuit professionnel.
Pour gagner de l'argent, évidemment.
Pour gagner de l'argent, pour en vivre. Parce que les tournées de Jack Kramer, puisqu'on l'a évoqué, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est du show, et c'est du show qui n'est pas adapté au tennis ibérique. On joue sur des surfaces rapides, et on joue au filet. Et on l'a entendu sur cette finale de 72. Il monte au filet tout le temps. Parce que quand on se paye les Louaud, le Jack Kramer, les Ken Rosewall et autres, ben, il faut gagner ça au filet, parce qu'autrement, on ne gagne pas. D'ailleurs, il gagne assez peu. Il va souvent en finale, mais ce n'est pas celui qui va le plus marquer la tournée professionnelle.
Alors, Gimeno, il est né en 1937 à Barcelone. C'est un Catalan, fils de prof de tennis, vous l'avez dit, Jean-Christophe Piffaut. De l'autre côté de l'échelle sociale, on va dire, il y a ce grand Manuel Santana, qui lui est né en 1938 à Madrid. C'est une toute autre histoire, Jean-Christophe Piffaut. Qui est l'autre grand tennisman espagnol sous l'Espagne de Franco?
Alors Manolo, on l'appelle comme ça, hein, et tiens à ce qu'on l'appelle comme ça.
C'est son surnom.
C'est son surnom, et puis j'ai eu la chance de le rencontrer et de l'interviewer plusieurs
fois. Il vit encore aujourd'hui.
Hein. Il vit encore aujourd'hui, avec toujours un sourire incroyable. Ce sourire, je crois que c'est une joie de vivre, parce qu'il est arrivé à une place qu'il n'était absolument pas destiné. En l'occurrence, quand il a 6 ans, il n'est plus à l'école. On est sous l'Espagne franquiste. Hein. La notion de liberté, égalité, fraternité, on l'oublie complètement. À 6 ans, il arrête l'école, ça ne gêne personne. Et il va devenir ramasseur de balles dans un club de Madrid qui s'appelle le Velázquez. Et il rapporte 6 pesetas par jour.
À la famille.
À la famille.
Des argentés.
Alors, 4 pour sa mère, 2 pour lui. M'a-t-il dit.
Famille très très pauvre. Hein, donc.
Ah, famille très pauvre. Ils sont 10 familles dans un immeuble à se partager une salle de bain et un point d'eau. On a du mal à imaginer aujourd'hui ce qu'était l'Espagne sous Franco. Et puis elle sort de la guerre. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un pays traumatisé. Et il va pas faire que ramasser les balles. Il va commencer par jouer au mur. Et puis on voit qu'il est très doué. Donc les gamins de son âge vont le demander de jouer avec lui. Et il va rencontrer un mécène. Une famille de mécènes, en fait un couple. La famille Rijon. Hein. Et ce mécène, eh bien, on est dans la tradition des œuvres charitables catholiques, on va dire. Il a son pauvre. Et il va lui permettre de commencer à faire les tournois amateurs. Mais ce qu'il y a de très, très étrange et de très étonnant, c'est qu'il va peut-être gagner autant d'argent que Gimeno. Tout simplement parce que à l'époque, on est amateur sur les grands chelems. Là, il n'y a aucun doute. Mais par contre, toute la gloire qu'on a acquise à Roland-Garros, à Wimbledon, en Australie ou aux États-Unis, on la monnaie pour les tournois de plage.
Antoine Bento, quel regard vous avez-vous en tant que joueur de tennis sur ces deux joueurs-là des années 60 du tennis espagnol ?
Moi, ce qui me frappe, c'est et on le voit avec ces deux joueurs qui sont au début de l'histoire du tennis espagnol, c'est que déjà ils sont d'un point de vue technique, ils sont dans l'adaptation du tennis de leur temps. On a cette image générale dans le grand public, c'est que le tennis espagnol, c'est du tennis de fond de cours, c'est du tennis de et en fait, c'est la force du tennis espagnol parce que c'est en ça qu'on voit que c'est une culture. Ils ont une vraie culture du jeu, c'est qu'ils se sont toujours adaptés au tennis qui se pratiquait et au tennis qui est efficace dans le temps dans lequel ils jouent. C'est quelque chose qui est marquant et on le voit déjà avec un Rimeno qui jouait déjà un tennis très offensif, qui allait beaucoup au filet, et vous l'avez dit très bien, parce qu'il fallait s'adapter au tennis anglo-saxon, parce qu'il fallait s'adapter au tennis qui se pratiquait.
Jean-Christophe Pifot, un mot sur le tennis féminin sous l'Espagne de Franco. Là, on vient de parler de deux joueurs masculins. Quel est l'état du tennis féminin dans les années 60-70 en Espagne ?
Alors, avec l'Espagne, pour les femmes, on est avec un paradoxe incroyable. 1931, elles ont le droit de vote, avant nous. Mais arrive le coup d'État, arrive Franco. Et là, c'est un retour en arrière absolu. La femme est considérée comme une fille de son mari, comme jamais adulte. Il faut attendre, je crois, 54 ou 57 pour qu'elles aient le droit de travailler. Donc imaginez le sport. Elles sont dans les tribunes. On leur autorise de faire un peu d'exercice physique dans les clubs.
Mais aucune émancipation par le sport. Aucune joueuse espagnole. On va y revenir tout à l'heure parce qu'il y en a une qui va surgir à la fin des années 80. Mais en effet, il n'y a pas de joueuse espagnole de tennis dans les années 60-70 sur la scène internationale.
Elles sont totalement bridées.
Alors, après ce duo Santana-Rimeno, on va devoir attendre une bonne vingtaine d'années pour voir réapparaître des joueurs espagnols briller sur la terre battue de Roland-Garros. Nous sommes au tout début des années 90.
Une finale 100% espagnole à Paris ou l'hégémonie du tennis ibérique sur terre battue. Si les styles des deux acteurs sont analogues, leurs cultures sont différentes. Sergi Bruguera, le catalan, Alberto Berasategui, le basque. Sa Majesté Juan Carlos, roi d'Espagne, était de la fête. Dans cette bataille de coups droits, c'est Sergi Bruguera qui pose le premier les banderilles. Le catalan empoche le premier 7-6-3. Mené 4 jeux à 1 dans la deuxième manche, Sergi Bruguera renverse la tendance, la variété de ses coups fait le reste. Le catalan revient à 4 jeux partout pour l'emporter 7-5. Le basque espagnol, piqué dans son orgueil, réagit. Son tennis est brave. Berasategui et son coup droit dévastateur relancent l'intérêt de la finale, s'imposant dans le troisième set, 6-2. Mais l'expérience de Sergi Bruguera prévaudra. Le tenant du titre va détruire progressivement la confiance de Berasategui. Ayant pris l'ascendant psychologique sur le basque, le catalan, toujours présent dans les grands rendez-vous, portera l'estocade finale 6-1. Sergi Bruguera réalise l'exploit de remporter pour la deuxième année d'affilée les internationaux de France. Apothéose royale pour le champion catalan.
C'était sans doute un chroniqueur de corrida pour ce commentateur dans une vie antérieure sans doute. La première victoire de Sergi Bruguera date de 1993, là c'était la finale 94. Et alors Jean-Christophe Pifot, d'où vient-il ce Sergi Bruguera ?
Alors on retrouve cette histoire de la transmission père-fils, puisque Luis, son père, est le premier qui va faire une vraie académie, au sens où on l'entend aujourd'hui. Et il va préparer son gamin. Ils sont à Barcelone.
Il est né en 71, Bruguera.
Absolument. Et il rentre vraiment dans le moule d'une vision du tennis telle que Nick Boltieri l'a définie. C'est-à-dire, Nick Boltieri, c'est un entraîneur américain, ancien Marines, qui prépare ses joueurs américains, et autres d'ailleurs, européens, qui vont venir le voir, avec comme base et comme fondement l'entraînement du Marines qui doit supporter l'effort le plus longtemps possible.
Un camp d'entraînement, littéralement.
Un camp d'entraînement, c'est vraiment du camp d'entraînement. Et Sergi Bruguera, il est dans cette logique avec son père. Et Luis, il a une doctrine, il dit « je veux former des soldats d'élite du tennis ».
Et ça fait écho, Jean-Christophe, aussi aux années 80 en Espagne, puisque on est passé à un régime démocratique, et très vite, Jean-Christophe, l'Espagne décide, entre autres, de revenir sur la scène internationale par le sport, et par ailleurs, le libéralisme est aussi venu arroser les structures sportives espagnoles, et c'est vrai que Sergi Bruguera est un des premiers fruits de cette démocratisation espagnole.
Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 75, effectivement, c'est la mort de Franco, Juan Carlos refuse de prendre le fauteuil que lui promettait le Caudillo, mais le sport espagnol va profiter curieusement de l'implication politique de l'Espagne dans le sport international, avec Juan Antonio Samaranch, qui va être secrétaire d'État au sport, qui va être sportif au départ, hein. Il fait du hockey sur...
Gazon.
Non, sur glace, patin à roulette.
Ah, sur patin à roulette, voilà.
Ce qui lui permet d'être discipline oui, hautement internationale, ce qui lui permet d'être champion du monde d'ailleurs, hein, en tant que...
Évidemment.
Mais il est franquiste avant tout. Il rentre dans les phalanges et il est repéré. Il va devenir celui qui va s'occuper de toutes les équipes olympiques sur 3 Olympiades jusqu'à Mexico. Et puis, il va être de 77 à 80, il va être ambassadeur de l'Espagne en URSS. Il est en train de se tisser un réseau relationnel qui va lui permettre d'être élu en 80 à la présidence du Comité international olympique. Et tout ça, ça va permettre, 92, d'avoir Barcelone, et ça va permettre à la démocratie qui se met en place de mettre un plan stratégique en place pour se faire reconnaître en tant que grand pays sportif. Et on va avoir le cyclisme, le foot et le tennis qui vont être très fortement présents avec le sport automobile. Mais on est sur un libéralisme assez violent, c'est-à-dire qu'il faut payer pour s'entraîner, il faut s'inscrire, c'est cher. C'est du libéralisme parce qu'on va chercher l'argent. Donc il y a des gens qui viennent de partout.
Antoine Bento, un mot sur Sergi Bruguera.
Sergi Bruguera, c'est en gros ce tennis espagnol avec Berasategui aussi qui a joué en finale. Ce sont un peu les héritiers des Borg, des Villander, où ce sont des joueurs très solides, de fond de court, qui font très peu d'erreurs, qui sont capables de jouer très longtemps, qui montrent très peu d'émotions sur le terrain. Et ça, c'est très important parce que c'est le tennis qui se développait et qui allait dans ce sens-là. Les athlètes étaient beaucoup plus forts physiquement, donc il fallait passer plus de temps sur le terrain. Et c'est, et encore une fois, ils s'adaptaient à un tennis qui se jouait et ils en étaient la parfaite incarnation.
Alors, Sergi Bruguera incarne un renouveau de tennis masculin. Et à la même époque, surgit une femme sur la terre battue de Roland-Garros. Nous sommes en 1989. Elle a 17 ans.
La terre du central est propice au séisme cette année. Après Chang, c'est Sanchez la Catalane qui détrône la numéro 1 mondiale, Steffi Graf. Arantxa Sanchez n'a pas cessé de pilonner le revers de l'Allemande. Les atouts de l'Espagnol, régularité, précision et surtout hargne, elle y croit jusqu'au bout. Après un premier set remporté au tie-break, Sanchez a connu un passage à vide au deuxième. Dans le dernier set, Arantxa refait surface. La pression est alors sur Steffi Graf qui recule. Arantxa est psychologiquement la plus forte. 17 ans, 1m66, la cadette de la tribu Sanchez arrache la troisième manche, 7 jeux à 5. Arantxa a parfaitement mesuré la difficulté de la demi-finale entre Monica Seles et Steffi Graf. Elle a vu la gamine yougoslave faire trembler la tenante du titre et elle l'a apprécié.
Arantxa Sanchez, c'est la toute première grande joueuse féminine du tennis espagnol. Elle a 17 ans en 89 quand elle remporte Roland-Garros, une victoire incroyable. Elle est née elle aussi en 71 à Barcelone, comme Sergi Bruguera. Qu'est-ce qu'elle incarne, Jean-Christophe Pifot ?
Alors, elle incarne les vestiges du franquisme qui est toujours là.
Eh oui.
Parce que elle aussi, elle est fabriquée, entre guillemets. Il y a toujours cette histoire, souvent cette histoire dans le tennis, de la vie par procuration des parents, des proches. Et là, en l'occurrence, elle a trois mâles avec elle. Ses deux frères aînés, Javier et Emilio, et son père, Emilio aussi. Et ils vont l'étouffer totalement.
Société patriarcale.
Société patriarcale. Et c'est une fille que l'on ne voit jamais complètement épanouie. Elle est tout le temps à regarder dans les tribunes ce qui se passe. Elle est sous emprise en permanence. Et il va lui falloir même attendre de prendre sa retraite pour commencer à s'émanciper et à sortir de cette pression. Au point qu'elle va même poursuivre sa fratrie et son père en justice.
Il faut préciser, Jean-Christophe, qu'elle a gagné à peu près 50 millions de dollars sur une carrière qu'elle n'a pas vu un centime. Il faut quand même le préciser, c'est quand même incroyable cette histoire.
Alors, elle est incroyable, mais elle est classique. Parce que Steffi Graf, contre laquelle elle gagne cette première finale, elle a la même histoire avec son père. Ses filles, elles se retrouvent souvent avec une carapace au niveau de leur corps. Et en plus, les commentateurs sportifs, ils vont jouer là-dessus. On l'appelle le bourdon.
Le bourdon de Barcelone.
Le bourdon de Barcelone. Alors que c'est la ballerine.
Oui, Steffi Graf, c'est la ballerine allemande.
C'est la ballerine. Voilà. Et elle va être avec une pression incroyable parce que...
Qui est à la fois du sexisme et aussi une pointe de racisme. Moi, je me souviens, j'étais adolescent, il y avait ce côté, les femmes espagnoles, portugaises, elles sont moins jolies. Il y avait un truc assez raciste dans cette histoire.
Je suis un fan de Jacques Brel. Il a dans une chanson, il dit de ces femelles qu'on guest apporte parce qu'elles n'ont pas tout à fait oublié que Franco était tout à fait mort. Eh ben, on est là-dedans. Il y a encore un relan, et qui fait d'ailleurs qu'il y a assez peu de femmes espagnoles qui vont prendre la relève.
Il y en a une seule qui a gagné Roland-Garros après Sanchez.
Oui, mais
Sanchez,
elle n'est pas espagnole à
oui,
la base.
Elle est vénézuélienne, Caracas. Antoine Bento, un mot sur Sanchez ?
Alors déjà, en plus, elle n'a pas eu trop de chance, c'est qu'elle est tombée quasiment en même temps que Steffi Graf, que Monica Seles, et que voilà, les projecteurs étaient vraiment braqués sur Seles, ces deux joueurs, sur Seles et Graf.
Mais trois victoires quand même.
Trois victoires en rien, c'est une victoire à l'US Open qu'il ne faut pas oublier pour une joueuse espagnole qui pratiquait le tennis qu'elle pratiquait. Ça montre à quel point elle était douée et à quel point elle faisait plus que... Et encore une fois, c'est que de la même façon où on se limitait à une apparence physique, donc le bourdon, donc la ballerine Graf, eh bien on va se limiter à une nationalité pour un style de jeu. Et c'est vrai que ça a fait un petit peu de mal au tennis quelque part. C'est raccourci un peu journalistique, il faut le dire, et c'est pas un gros mot. Et je pense que du coup, Arantxa Sanchez a aussi souffert de cette image qui était juste d'une femme qui renvoyait la balle, alors que quand on connaît un petit peu le tennis, on sait à quel point elle faisait bien plus.
Un mental d'acier aussi, Sanchez, il faut le dire. On va faire une pause musicale avec Jeannette. Nous sommes en 74, chanteuse espagnole de 23 ans à l'époque. Le titre joué dans le jukebox ce soir sur Inter, Paul Ketevas.
Desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás junto a la estación.
Le héros 93 du tournoi Roland-Garros s'appelle Sergi Bruguera. Il est espagnol, il a 22 ans. Il a défait en 5-7 l'invincible Jim Courier à l'issue d'un match superbe, un vrai bras de fer entre deux gladiateurs de la terre battue. Laurent-Frédéric Bollet.
Philippe Collin.
Il gît sur la terre battue comme écrasé par le poids de son bonheur. Son père est également fou de joie. Normal, Sergi Bruguera vient de remporter Roland-Garros. Vient alors peut-être la plus belle image de la quinzaine, c'est Jim Courier, le héros vaincu, qui relève le héros vainqueur.
Sur France Inter.
Le 6 juin 1993, sur le cours central de Roland-Garros, face à la machine Jim Courier, Sergi Bruguera a donc incarné la renaissance du tennis espagnol sur la scène mondiale. Il est apparu comme le héros d'une Espagne nouvelle, d'une Espagne ouverte sur le XXIe siècle, et il fut même l'incarnation d'une Barcelone festive et joyeuse où les étudiants de toute l'Europe se ruent encore aujourd'hui pour y passer des week-ends enfiévrés. Et puis, Sergi Bruguera a également ouvert la voie à toute une génération de tennismen espagnols qui ont triomphé depuis à Roland-Garros. D'abord Carlos Moya, puis Albert Costa et Juan Carlos Ferrero.
Aujourd'hui, Juan Carlos Ferrero est numéro 1 mondial au classement 2003. On pourrait parler de consécration, mais c'est surtout la suite logique de son ascension. En recevant la Coupe des Mousquetaires des mains de celui qui, 20 ans plus tôt, écrivait l'une des plus belles pages du sport français, Ferrero est entré dans le cercle très prisé des vainqueurs de Grand Chelem. L'attente a été longue, pourtant l'Espagnol n'a que 23 ans. 4 participations à Roland-Garros, 2 demi-finales consécutives perdues, une finale l'an passé traumatisante face à son compatriote Albert Costa, jusqu'au sans-faute d'hier devant Martin Verkerk. 3-7 en 2h09, 6 jeux seulement concédés aux Néerlandais. On n'a pas connu plus expéditif depuis la victoire de Björn Borg sur Guillermo Vilas en 1978. Juan Carlos Ferrero a dominé son sujet.
Jean-Christophe Piffaut, je rappelle que vous êtes un fin connaisseur de l'histoire du sport et de l'histoire du tennis en particulier. Ce Juan Carlos Ferrero, il appartient à cette génération des tennismen espagnols des années 2000, 90-2000. Qu'est-ce qu'il incarne alors dans cette histoire espagnole, Juan Carlos Ferrero ?
C'est une technique de jeu de jambes. Il est incroyable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une balle dont on se dit qu'il ne peut pas la toucher. Et ça, c'est incroyablement déstabilisant.
Jean-Christophe, il faut préciser aussi que ce Ferrero, il est de Valence. Ça paraît anodin, mais c'est très important. Il n'est ni de Madrid, ni de Barcelone. C'est aussi une décentralisation de l'Espagne. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu la transition démocratique, donc Franco disparaît et arrive la démocratie en Espagne. Puis après, les pouvoirs sont descendus aussi en région. C'est pas du tout un système jacobin. Donc ce Ferrero, il incarne aussi un tennis des régions en Espagne.
Oui, absolument. C'est Villena, c'est Casales, un autre entraîneur mythique espagnol, qui a son académie lui aussi. Et effectivement, c'est représentatif parce qu'on va le voir aussi derrière avec Mallorca, bien évidemment.
Nadal, bien sûr.
Nadal. Mais c'est ce maillage de... Il y a une dizaine de camps d'entraînement qui s'appellent des académies, qui sont vraiment sur un modèle américain. On y parle espagnol et anglais. Et on joue 35 heures par semaine. C'est une économie, c'est un business aussi, et avec une exigence incroyable.
Antoine Mento, je rappelle que vous êtes à la fois ancien joueur et vous avez été aussi coach d'un grand joueur de tennis qui est votre frère. Depuis le début de cette émission, on parle des joueurs espagnols sur terre battue, comme une signature, comme une marque de fabrique. Pourquoi sont-ils aussi forts, ces Espagnols, sur cette terre battue que l'on connaît bien à Roland-Garros, bien sûr?
Parce qu'ils naissent dessus.
Tout simplement.
Tout simplement. et donc, ils ont cette culture de l'inné, ce déplacement. Et je l'ai vu très vite et très tôt. On le voit dans les catégories de jeunes. Moi, quand je jouais des tournois sur terre battue.
Adolescent.
On avait des petites difficultés à se déplacer. Même, on a beau avoir Roland-Garros. Eux, tous les cours sont en terre battue. On passe pas autant de temps que eux sur terre battue. Et ça se voit sur une façon de se déplacer, une façon de glisser, où les jeunes joueurs espagnols déjà maîtrisent cette glissade, maîtrisent le fait de jouer un coup en bout de course et d'avoir posé la glissade avant et d'arriver pile au bon moment pour repartir et pas perdre de temps à glisser après la frappe, chose que par exemple Pete Sampras n'a jamais maîtrisé alors qu'il était numéro un mondial et qu'il était fantastique. Mais voilà, les Espagnols, eux, c'est culturel, ils ont vraiment ça justement dans ces académies où ils passent énormément de temps sur le terrain. Et je voulais dire quelque chose sur Ferrer et on l'a vu aussi avec Carlos Moya, c'est après Bruguera, Moya, Ferrero, c'est aussi une évolution du tennis espagnol. C'est un tennis espagnol qui ne se contente plus d'être solide et d'être très fort et de pouvoir passer longtemps sur le court. Ils peuvent toujours faire ça, mais ils font de plus en plus de choses avec la balle. Ils sont de plus en plus créatifs et ça montre vraiment une évolution et encore une fois ce côté culturel, cet amour du jeu sur le tennis où ils sont capables de faire évoluer même leurs écoles et la façon dont ils appréhendent le sport.
Alors venons-en à l'héritier de tout ça, à la légende, au mythe qui qui a donc fait son entrée en scène à Roland-Garros en 2005.
Voilà sans doute la personnalité qui manquait au tennis. Une allure de surfeur, une combativité hors norme. À 19 ans seulement, l'Espagnol Rafael Nadal a tout pour plaire. Doté d'un physique et d'un coup droit explosif, c'est l'un des rares joueurs capables de concilier victoire et spectacle. Promu au rang d'espoir mondial à 13 ans lors de sa victoire au tournoi des Petits As, ce surdoué du tennis n'a pas souffert de sa précocité. Entraîné par son oncle, devenu son mentor, Rafael Nadal s'est forgé un mental de gagnant. Et 5 ans plus tard, vainqueur à Roland-Garros dès sa première participation, Rafael Nadal a donc confirmé les espoirs placés en lui. Une joie d'autant plus intense pour cet amateur de football et notamment du Real Madrid que c'est Zinedine Zidane qui lui a remis ce trophée, sans doute le premier d'une longue série.
Ah oui, une longue série, nous étions en 2005, il en est aujourd'hui à 13 victoires à Roland-Garros, c'est complètement inouï à vrai dire, il a 20 titres de Grand Chelem en possession. Nadal, il s'apprête à partir de demain à peut-être viser un 14e titre, ce qui serait vraiment totalement incroyable. Jean-Christophe Pifot, il est né en 1986 à Majorque, ce Rafael Nadal. D'abord, à nouveau, d'où vient-il? Quel est son milieu social? Dans quel monde il a grandi, Rafael Nadal?
Alors, on ne peut pas dissocier Rafael Nadal de ses deux oncles. Et l'attachement aussi à son pays et à sa région. Parce que tous, quand ils créent une académie, ils vont la créer d'où ils sont partis. Et donc, en l'occurrence, Nadal, ben, il est à Majorque. Et il a ses deux frères, les deux frères de son père, pardon, un footballeur professionnel qui a joué au Barça, alors que Raphaël est fan du Real. Mais surtout, c'est Tony, qui est un joueur honnête de tennis, mais qui ne va pas être sur le circuit, mais qui va prendre le jeune Rafa, très tôt, dès 3 ans, qui va l'accompagner et qui va faire des choses mais absolument hallucinantes. Rafael Nadal, il est droitier. Il va lui faire prendre la raquette de la main gauche parce qu'il trouve qu'il a une trop grande faiblesse sur le côté revers. Imaginez, Rafael Nadal est droitier. L'autre, il va réussir...
Disons qu'il est gaucher aujourd'hui, hein, pour ceux qui l'ignorent. Voilà. C'est un grand gaucher du tennis.
Voilà. C'est un grand gaucher.
Antoine Bento, ouais. Il se peut, ce soir, que les auditeurs et les auditrices ne connaissent pas vraiment bien Nadal. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ne connaissent pas Nadal pour le présenter en quelques mots? Qui est ce Rafael Nadal qui a 13 victoires au compteur à Roland-Garros?
Bon, je vais essayer de le faire humblement. Il a un fair play et une humanité en lui qu'il transmet au grand public et le public l'adore. Parce que il ne feint pas, il ne fait pas semblant, et il ne fait pas semblant dans le jeu et dans ce qu'il produit sur le terrain. Il donne tout. Il a hérité de Tony justement ce respect du sport avant tout. Il respecte le jeu et tout en le transcendant et tout en le défonçant, j'ai envie de dire, parce qu'il repousse toutes les limites. Que ce soit d'un point de vue statistique et d'un point de vue historique, mais dans comment il le fait, dans la manière dont il le fait. Alors le joueur, il s'appuie sur un immense coup droit, mais il a progressé dans sa carrière, tout au long de sa carrière du côté revers, et donc son revers est devenu limite un deuxième coup droit. Et c'est aussi une de ses caractéristiques, et ça a été un enseignement que oncle Tony, comme on l'appelle, lui a passé, c'est que on a beau être le meilleur, chose qu'il est devenu très vite à Roland-Garros, il a jamais cessé de vouloir progresser, Rafael Nadal. Et je crois aussi que c'est ce qui plaît aux gens qui regardent et qui aiment le tennis.
Jean-Christophe, jusqu'à présent, les joueurs espagnols précédents, qu'on a cités ce soir, étaient le reflet d'une époque de leur pays. Qu'est-ce qu'il incarne, ce Rafael Nadal, d'un point de vue espagnol, depuis 2005?
Le tennis est devenu monde. La méthode espagnole... Dans les académies, il y a des Russes, il y a des Bulgares, il y a des Tchèques, il y a des Français. C'est devenu une entreprise à tout niveau, médiatiquement, mais dans l'organisation du travail, dans la planification, dans les préparateurs physiques, dans l'encadrement, dans les médecins. C'est une marque. Nadal, c'est une marque. De même que Federer est une marque. Ce sont des marques, ils ont des attachés de presse, ils ont des bureaux de marketing. On est dans les Guignols auraient dit la World Company. Mm-hmm. Le sport, c'est un peu le miroir grossissant quand même de la société. Et là, on en a peut-être aussi des excès. Je parle à titre personnel. C'est aussi révélateur pour moi de quelque chose que je trouve très dur dans le tennis. C'est que je crois que c'est le sport le plus injuste au niveau de la répartition des revenus. Vous êtes un joueur à la 150e place mondiale. Vous faites le circuit. Vous êtes 150e mondial.
Ce qui est énorme.
Dans le foot, vous êtes en équipe nationale. Mmh. Vous allez jouer la Coupe du Monde. Mmh. Vous êtes dans un grand club. Au tennis, vous êtes 150e mondial. Vous faites le tour du monde. Vous payez votre hôtel. Vous payez votre coach. Vous payez vos cordages. Vous payez tout. Et à la fin, quand vous avez gagné 2000 euros, vous êtes content. quand ça ne vous a pas coûté. Donc Nadal, c'est le sommet, c'est le truc que tout le monde veut ça. Mais le prix à payer pour arriver à ça me paraît très très exagéré et je pense que le monde du tennis doit vraiment réfléchir à la façon dont il gère ses pépettes.
Et cette pyramide.
Et cette pyramide. Mm-hmm. Parce que les 150e, le rôle tournoi de Roland-Garros, tous les grands tournois, si on n'a pas un mec qui sort du tableau, mais c'est pas la peine de jouer les premières semaines. Mm. Ils sont hyper importants dans le jeu et ils sont méprisés. Ils n'existent pas. Je suis pour les intermittents du spectacle du tennis.
Très bien. Antoine Bento a un commentaire.
Il y a un vilain terme qui commence à émerger dans le monde du business, c'est le glocal. C'est-à-dire qu'il arrive à faire du global avec du local. Et c'est un vrai succès aussi là-dessus, bien sûr en termes d'image. C'est que, et bien sûr, et avec ses armes, et avec un tennis espagnol, avec des armes qu'on pourrait dire espagnoles grossièrement, avec voilà cet esprit guerrier, on appelle le gladiateur, la reine, on dit qu'il est dans une... C'est comme une corrida, c'est un torero, on utilise ce champ lexical-là. Il a un look très marqué, il a une gueule, il est plutôt joli garçon. Et voilà.
Une allure de gitan un peu.
Voilà, hein et en même temps, il a toujours ce mot sympa pour son adversaire. Il arrive à Roland-Garros, alors que ça pourrait être chez lui, il y arrive toujours avec humilité. Donc, ça plaît énormément, et Rafael Nadal a, avec ses ingrédients, arrivé à vraiment prendre la place, quoi.
Jean-Christophe Pifot.
Chaque année, les ramasseurs de balles, ils désignent le joueur le plus sympa du tournoi. Et moi, tout le temps où j'y étais, je suis plus dans les coulisses, mais tout le temps où j'y étais, Nadal. Pas un joueur français, hein, mais Nadal.
Ça dit quelque chose, sans doute. Vraiment.
Ça dit vraiment quelque chose.
Pour finir, Jean-Christophe Pifot, ce n'est pas qu'un serpent à sang froid, ce Nadal. On le voit parce que lorsqu'il gagne, notamment à Roland-Garros, très vite, après avoir eu un masque comme ça, un peu de tueur, arrivent les émotions. Il pleure, il rit, parfois on dirait un enfant. Ça le rend extrêmement touchant et peut-être plus attachant que Federer et Djokovic.
C'est vrai qu'il a cette capacité à laisser passer son émotion. Ce qui est étonnant, c'est que c'est le jour de la finale. Ce qu'on évoquait précédemment. La finale, c'est un moment très 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 particulier. Il y a de nombreux joueurs qui ont fait ça. Sauf que lui, on le voit à chaque fois. Mais Kuerten, quand il gagne, la première fois.
Le Brésilien, oui. 97, je crois.
Exactement. Mm-hmm. Et puis la liste est longue. De ces joueurs qui... Parfois, c'est le graal d'une vie. Celui qui gagne en fin de carrière, ce truc-là, il va... Simplement, Nadal, à chaque fois qu'il va faire le tournoi, il a l'impression qu'il ne va pas le gagner. C'est le seul. Tout le monde autour est sûr qu'il va le gagner. Lui, il fait tout pour le gagner. Mais tant qu'il ne l'a pas gagné, il n'y croit pas. Ou il fait tout pour... Et donc, effectivement, il a ce relâchement extraordinaire. Mais je crois qu'on connaît, quand on est joueur de troisième série et qu'on gagne le tournoi de son club, on vit la même chose.
Antoine Mento, pour finir.
Oui, c'est une chose, c'est qu'en fait, pour atteindre un Graal comme gagner Roland-Garros, je pense qu'il faut dégager tout au long d'une quinzaine et tout au long d'une carrière, une espèce, voilà, d'être une brute de travail, il faut dégager de l'assurance, il faut dégager de la confiance. Et en fait, donc, parfois, on contrôle ça. Le tennis, qui est un sport individuel, la personne doit contrôler un peu ses émotions. Il y a un jeu d'un peu de poker menteur avec les autres joueurs. En revanche, on se fait rattraper parce que une fois que c'est fini, ok, on l'a fait. Donc on peut se relâcher, donc on est submergé. Et donc là, on peut avoir le sourire, on peut avoir les larmes. Et on y a encore une fois, encore plus chez Rafael Nadal, cette culture et cet amour du jeu. Il sait qu'il est en train d'écrire l'histoire, il sait qu'il est en train de changer les standards de l'histoire de son sport. Et il s'en rend compte une fois que c'est fait.
Eh bien, nous verrons si Rafael Nadal remporte une 14e victoire à Roland-Garros d'ici 15 jours. Merci à vous deux d'être venus ce soir. Vous pouvez retrouver la plume d'Antoine Bento dans le dictionnaire amoureux du tennis, coécrit avec le romancier Laurent Binet, un livre disponible chez Plon, un très beau dictionnaire amoureux. Et vous pouvez également vous plonger dans les films documentaires réalisés par Jean-Christophe Pifot. Merci beaucoup à vous deux, messieurs.
Merci beaucoup, Philippe.
Merci, Philippe.
L'œil du tigre. Philippe Collin, sur France Inter. Well, you flew to New Orleans to rent a car and to see your friend, to put him in the hospital again. In the back, on the second floor, right across from the radio bar, no food in the fridge, I guess things had gone too far. A lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine.
is fast.
Did man invent his illnesses? Or fundamentally unstable? Mother Mary shrine hiding under the table. In your blue silk robe, burning cigarettes, dreaming of your soul on a Baton Rouge day. Where you going and what's on spec? Well, all things come and all things pass. Takes a lot of medicine to go this fast.
Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast.
Oh, all things come and all things pass, but
takes a lot of medicine to go this fast.
Medicine. Chanson signée Nick Waterhouse. On poursuit en musique avec La Victoire en chantant Le Rendez-vous de Pierre-Étienne Minonzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année. Et ce soir, on reste sur un court de tennis. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous.
Alors de qui allez-vous nous parler ce soir ?
De Serena Williams. Mmh. Parce que Roland-Garros débute aujourd'hui et parce qu'aucune autre personnalité actuelle du tennis international n'a suscité autant de chansons qu'elle. Le phénomène est très perceptible aux États-Unis où cette championne reste aujourd'hui populaire auprès de nombreux artistes, même si, à 39 ans, elle est proche de la fin de sa carrière.
Alors pourquoi génère-t-elle un tel engouement musical dans son pays, Pierre-Étienne ?
D'abord parce qu'elle s'inscrit dans une poignante saga familiale. Serena est en effet la cadette de Vénus, avec laquelle elle a remporté de nombreux titres en double. Les deux sœurs ont longtemps été entraînées par leur père, Richard, qui souhaitait les sortir au plus vite de Compton, une commune californienne connue pour abriter des guerres de gangs. Yetunde, l'aînée de Serena et Vénus, qui était restée vivre à Compton, a d'ailleurs été victime de cette violence. En 2003, elle a été abattue par des dealers. Son décès a inspiré 2 ans plus tard le titre « Dreams » du rappeur The Game, qui rend hommage aux 3 sœurs.
Dedicated to Yetunde Price, the sister of Venus and Serena Williams, who was slain during a gang shootout in Compton Sunday, September 14th, 2003. Rest in peace.
J'imagine que Serena Williams est également évoquée dans la musique américaine à travers sa réussite sportive.
Bien sûr, en 20 ans, elle s'est forgée le plus beau palmarès du tennis féminin, en remportant notamment 23 grands chelems en simple. Ajoutez à ces titres un charisme indéniable et vous comprendrez pourquoi de nombreux artistes US ont déclaré leur flamme à Serena. Tel l'acteur Jamie Foxx qui, en 2004, à l'occasion d'un show télé, a clamé que son rêve était d'être transformé en une balle de tennis afin d'entretenir un contact, disons, direct avec la championne.
I could be your tennis ball. You can pop me out of a can. Clay court, grass court, girl, it don't scratch. Tuck me, baby, right next to your ass.
Jamie Foxx, est-ce qu'on sait comment Serena Williams a reçu cette déclaration ?
Non, car celle qui est aujourd'hui mariée à un entrepreneur et maman d'une petite Olympia a longtemps été pudique sur sa vie privée. Ce qui n'a pas empêché, il y a 10 ans, que court la rumeur de sa liaison avec la star canadienne Drake. Ce dernier n'a jamais démenti, se contentant de citer la joueuse dans un de ses titres, Worst Behavior, dans lequel il explique que la seule solution pour lui de la battre sur un court serait que cette droitière joue de la main gauche. Cette explicité au début de cet extrait. I'm with my whole set, tennis matches at the crib. I swear I could be Serena when she playing with a left. Oh, where I reside, it look like a resort aside. Nigga, where your shit from? I imported mine. Ball miss for money like my last name, Mordecai. Fuck you, bitch, I'm Mordecai. Est-ce que la manière dont Serena Williams est musicalement évoquée a évolué, Pierre-Étienne, ces dernières années ? Oui, elle a inspiré de plus en plus d'artistes féminines et féministes en raison de ses nombreux engagements, notamment pour défendre l'égalité homme-femme dans le milieu du tennis et dans la société en général. En 2016, l'icône R&B Beyoncé l'a ainsi invitée à apparaître dans le clip qui accompagne Sorry, sa chanson sur l'adultère, parce que, je cite le réalisateur de la vidéo, ce titre parle de force et de courage, les qualités qui caractérisent Serena. On écoute Sorry.
Il y a sans doute peu de personnalités, Pierre-Étienne, qui ont été célébrées à la fois par Drake et Beyoncé, les deux poids lourds de l'industrie musicale américaine.
Ce qui m'amène à penser que, même une fois que Serena Williams aura rangé ses raquettes, on continuera de chanter ses mérites outre-Atlantique.
C'est tout le mal qu'on lui souhaite. À la semaine prochaine, Pierre-Étienne.
À la semaine prochaine.
Salut. Et voilà, cette 36e émission de notre saison 6 a été mise en onde ce soir, bien sûr, par H2M Henri-Marc Mutel. Merci Marco. Assisté ce soir à la technique de Victor Ouvrard. Merci à lui, merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre. Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi. Merci à Thierry Dupin pour la programmation des Scud. Et merci à Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur Twitter avec le compte L'Œil du Tigre et sur franceinter.fr, bien sûr, pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec l'histoire d'un mensuel à part dans le monde de la presse sportive. Le miroir du football, c'était le titre d'un journal publié entre 1958 et 1979. Adepte du beau jeu, le miroir du football, ce fut une autre idée du football. Rendez-vous dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.